Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Julian Assange est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt britannique. La justice britannique a décidé aujourd'hui que ce mandat d'arrêt reste d'utilité publique. Il pèse sur le fondateur de Wikileaks depuis plus de 5 ans et des plaintes pour viol déposées en Suède qui n'ont plus cours depuis. Pendant toutes ces années, Julian Assange est passé du statut de héros d'un internet libre de révéler les secrets les plus noirs, ceux que l'on veut cacher, à celui que l'on soupçonne de rouler pour des puissances qui l'utiliseraient pour défendre leurs intérêts, en passant donc par celui de criminels de droit commun. Les lanceurs d'alerte sont-ils suffisamment protégés? Sont-ils manipulés? Ce sont quelques-unes des questions du jour. Pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Nicole Marie Meyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancienne fonctionnaire et lanceuse d'alerte vous-même. Vous êtes désormais chargée de l'alerte éthique au sein de l'association Transparency International. Philippe Vasset, bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, co-auteur du livre avec Pierre Gatineau, Armes de déstabilisation massive, et c'est publié chez Fayard. Alors d'abord, actualité oblige, une réaction à la décision de la justice britannique sur le cas Julian Assange. Il va donc rester confiné dans l'ambassade d'Équateur à Londres, Philippe Vasset.
Oui, en fait, il est accusé d'avoir violé sa liberté conditionnelle quand il était menacé d'extradition vers la Suède, et la justice britannique a décidé de pas se dédire et de considérer que ce qu'avait fait Assange, c'est-à-dire en gros de jeter son bracelet électronique et de pas se rendre dans le commissariat où il devait pointer, constituait un délit.
D'un point de vue juridique, qu'est-ce que vous pensez de cette décision, Nicole Marie Meyer?
Alors, comme je ne suis pas une spécialiste, ni l'avocat d'Assange, ni une spécialiste du droit d'asile anglais, ni du droit anglais tout court, je crois que le problème de fond aujourd'hui avec le cas d'Assange, c'est que depuis le rapport de l'ONU de l'année dernière, il est question de détention arbitraire et de droits de l'homme, c'est-à-dire que sa santé est affectée. Donc aujourd'hui, le dossier est traité plutôt sur l'angle des droits de l'homme, parce que sinon, effectivement, en termes de définition du lanceur d'alerte, les avis sont très controversés, vu qu'il ne répond pas tout à fait ni aux critères de la Cour européenne, ni aux critères de définition du lanceur d'alerte.
Oui, c'est vrai, Philippe Vasset. On ne sait plus très bien qui est Julian Assange, ou du moins, on hésite un petit peu pour le qualifier. Il crée la controverse.
Mais c'est quelqu'un qui a toujours créé la controverse. D'abord, pour être précis, c'est pas un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui a créé une plateforme pour diffuser des informations confidentielles qui lui sont apportées par des lanceurs d'alerte. Il a largement bénéficié des documents que lui a amené un lanceur d'alerte.
Chelsea Manning,
qui
sur la guerre en Irak.
Voilà, qui contrairement à Assange, lui a été très lourdement condamné, a subi une détention particulièrement dure. Mais Assange, lui, est pas un lanceur d'alerte.
Alors, Nicole Marie Meyer, vous avez vous-même été lanceuse d'alerte dans l'administration et vous vous êtes retrouvée très seule et finalement sans contrat. C'est quand on choisit de dénoncer des faits délictueux dont on a connaissance, eh bien, ça peut très mal se passer et très mal se terminer.
Oui, alors c'est peut-être important justement parce qu'on parle des leaks et des leakers ou des plateformes de leaks, de rappeler que le lanceur d'alerte, c'est tout autant la personne qui fait un signalement interne à sa hiérarchie, au comité de l'éthique, etc., qu'au procureur de la République ou aux autorités, qu'ensuite au public. C'est-à-dire que vous avez l'alerte interne, l'alerte aux autorités, l'alerte publique, et ces trois démarches sont des lanceurs d'alerte, s'il y a des représailles, s'ils sont pénalisés, parce qu'ils font en fait une alerte sur une atteinte à l'intérêt général. Donc effectivement, moi j'ai simplement rendu à ma hiérarchie deux fois des rapports confidentiels sur des faits de corruption avérés, avec les pièces comptables en attache. La première fois, j'ai été mutée sur un poste inférieur, après m'être trouvée sous contrat de mort de l'auteur présumé des faits, avoir subi un début de...
Vous avez reçu des menaces de mort directes.
J'ai su que j'avais été mise
Un contrat sur votre tête,
voilà.
C'était exactement comme on dit dans les romans policiers.
Ça n'était pas très rare là où j'étais, mais c'était très rare. rare dans ma propre vie. Je ne suis pas James Bond. Je n'ai pas un... je ne venais pas de ce contexte. Je suis une spécialiste de la politique culturelle. Donc, j'étais légèrement en porte-à-faux par rapport à ce qui peut se trouver. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de procédure sécurisée. Il n'y avait personne à qui s'adresser. L'inspection générale qui m'avait en fait évalué comme un élément exceptionnel l'année précédente et que j'ai joint timidement après avoir envoyé déjà un courrier par DHL, ce qui n'était pas la procédure habituelle. Enfin, l'inspection générale m'a dit « Madame, ne nous saisissez pas officiellement, nous ne pourrons rien faire et vous vous mettrez en danger ». J'ai raccroché le téléphone et j'ai vécu un intense moment de solitude. Voilà. Donc c'est vrai que la première fois après ces avanies, j'ai été déplacée sur un petit poste, puis j'ai retrouvé un excellent poste. J'ai à ce moment-là eu la malchance de retrouver des abus, des faux en écriture publique et des abus de biens sociaux. J'ai rendu une note confidentielle, j'ai subi des pressions. Donc ça a recommencé. J'ai à nouveau été mutée sur un poste. J'ai demandé à rencontrer l'inspection générale et j'ai perdu définitivement mon poste et ma carrière. Et c'est pour ça qu'il est important de dire qu'au départ, si vous voulez, il n'y a pas seulement ces grands dossiers dans le monde, effectivement, avec des alertes massives, que ce soit fraude fiscale. Il y a aussi les centaines de gens qui, tous les jours, sont dans un dilemme professionnel entre sacrifier leur vie et leur carrière et faire une alerte sur un fait grave d'intérêt général, qu'il s'agisse d'un crime, d'un délit ou d'un risque grave santé, sécurité, environnement. Donc, le problème, c'est de bien voir que dans la vie de tous les jours, ces dilemmes se posent aux citoyens ordinaires et qu'il faut le protéger.
Philippe Vassé, dans l'action, est-ce que vous venez d'entendre ça ne vous surprend pas, quelque part?
Non, ça ne me surprend pas. On voit tous les jours, les journaux rapportent quand même beaucoup ce genre d'affaires. Pour faire le lien avec le dossier Assange, en fait, au début, Assange, il invente en fait un système qui est censé répondre à cette question, c'est-à-dire l'anonymat absolu. Il dit, pour défendre les lanceurs d'alerte, pour permettre aux gens de signaler des informations gênantes, compromettantes, qui ont un impact sur le public, il faut mettre en place une architecture qui permette aux gens de délivrer des informations sans que jamais on sache qui les a délivrées. Et donc il invente en fait le leak tel qu'on connaît aujourd'hui, tel que
Panama Papers, SwissLeaks, LuxLeaks, etc.
Il invente la marque leak avec WikiLeaks, puisque aujourd'hui tous les leaks sont estampillés leak, et il invente une architecture qui permet justement de donner des informations de manière anonyme. Ce qui est intéressant et ce que nous en fait dans notre livre avec Pierre Gatineau on essaye d'expliquer, c'est qu'en fait cet anonymat qui au départ est conçu comme un bouclier permettant de protéger les faibles dans des administrations souvent tentaculaires, s'est retourné et aujourd'hui est un bouclier qui permet aussi de protéger les puissants. Pourquoi ? Parce que l'anonymat, en fait, c'est un conduit qui permet de faire circuler toutes sortes d'informations. Et aujourd'hui, puisque souvent c'est les journalistes qui sont destinataires de ces informations, se retrouvent dans une position très schizophrénique où auparavant ils avaient des sources anonymes dont ils protégeaient l'anonymat eux, mais que eux connaissaient. Mm-hmm. C'est l'exemple du Watergate, la fameuse gorge profonde. Les journalistes du Washington Post savent qui c'est, même si elles donnent pas leur nom.
Et que eux-mêmes se retrouvent hackés.
Mais attendez. Alors que aujourd'hui, les gens qui reçoivent des leaks n'ont aucune idée d'où ça vient. Aucune. Et donc toutes les histoires de leaks, c'est aussi notre livre parle de ça parce que nous ça a été une frustration personnelle quand on a traité des dossiers, c'est qu'en fait vous vous retrouvez face à une masse d'informations et vous n'avez aucune idée d'où ça vient, quelles sont les motivations des gens qui vous les ont données, qui vous les ont transmis. Donc vous avez en fait un espèce de circuit, et ça qui a été vraiment institué par Assange, un circuit de blanchiment d'informations en fait, où en fait vous n'avez plus aucun indice sur la provenance de l'information, la manière dont elle peut être instrumentalisée, etc. Vous êtes complètement démunis.
Nicole Marie Meyer, oui.
Il y a des cas très différents, parce que je veux dire, pour LuxLeaks, on sait très bien qui était derrière, on connaît Antoine Delto. Non, mais il le savait. Édouard Perrin les connaissait, les deux. Vous aviez au départ, je veux dire, il y a des cas très différents. Les Panama Papers, vous avez aussi deux journalistes qui sont en contact avec John Doe. Donc vous avez.
Oui, mais ils ne savent pas qui c'est.
John Doe, c'est le nom de l'inconnu en anglais, le nom générique d'un inconnu, voilà, ou de gorge profonde.
Dans cette histoire-là, ils ne savent absolument pas qui c'est, et ils se rendent compte après avoir après qu'il leur ait transmis des dossiers,
oui,
que le fameux John Doe a aussi vendu les mêmes dossiers au fisc allemand et à plusieurs fiscs européens.
Alors là, j'aimerais effectivement rebondir sur une chose, c'est que les leaks, ou les fuites, si on prend le terme en français, et le fuiteur, la démarche est différente effectivement du lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, il fait un signalement pour mettre fin à un dysfonctionnement.
Et s'adresse à sa hiérarchie, en fait.
Pas forcément. Je veux dire, s'il y a nécessité, urgence ou drame, vous avez toujours la possibilité de faire des procédures d'urgence, donc d'aller directement au public. Et ça, toutes les législations le reconnaissent. Mais l'idée, le lanceur d'alerte, il découvre quelque chose de grave à son corps défendant. Il lance l'alerte. Généralement, il n'en a que des conséquences négatives. Mais son but, c'est de mettre fin au dysfonctionnement. Tandis que le leaker, dans le fuiteur, a pour but la dissémination de l'information et souvent une idéologie, j'allais dire, en caricaturant un peu, de la transparence absolue ou de la transparence. Donc le problème pour lui, c'est de faire circuler, de diffuser l'information, mais pas nécessairement de mettre fin au dysfonctionnement. Ça veut dire que vous pouvez être, quand vous êtes lanceur d'alerte, vous allez avoir une stratégie. C'est-à-dire que vous choisissez la stratégie qui permet d'arrêter ce dysfonctionnement ou ce risque grave. Et en dernier recours, si vous n'avez pas d'autre stratégie ou si personne n'a réagi, vous allez vous faire fuiteur. Vous allez prendre le problème de la ligue comme moyen, mais pas comme fin. D'accord. C'est ça la différence.
D'accord.
Non, ça me paraît une distinction extrêmement claire et extrêmement opérante, parce qu'en fait, le lanceur d'alerte a une stratégie à la fois éthique et judiciaire.
Absolument.
Le fuiteur est avant tout quelqu'un qui vise la communication.
Voilà.
Et c'est pour ça que ça nous paraît légitime, enfin ça nous a paru légitime de faire une contre-enquête en fait sur les fuiteurs, précisément parce que ce sont des agents de communication comme les autres en fait.
D'accord. Alors,
par ailleurs, que des lanceurs d'alerte qui partent d'une démarche désintéressée et dont on peut voir effectivement toute la progression puissent se retrouver à un moment donné, effectivement, quand on sort des informations manipulées, ou qu'ils puissent se retrouver, comment dirais-je, dans des stratégies de communication ou de destruction, effectivement, c'est tout à fait possible. Donc, tout le monde, je pense, tous les gens qui s'occupent de la protection des lanceurs d'alerte et des lanceurs d'alerte sont très vigilants sur le fait de n'être pas eux-mêmes manipulés. Nous gérons nous-mêmes environ 35 dossiers de lanceurs d'alerte. On commence toujours par vérifier l'information. Est-ce qu'il y a vraiment un crime ou un risque grave? Est-ce que la personne a fait une alerte? Éléments de preuve chaque fois, et est-ce qu'il y a eu des représailles contre cette personne? Donc, nous ne sommes pas journalistes d'investigation, mais nous vérifions la réalité des faits, et aussi si la démarche est responsable.
Alors,
parce que l'alerte est responsable.
Parce que c'est ce que vous dites dans votre livre, Philippe Vasset, parfois, et même peut-être souvent sur les derniers cas de fuite massive, eh bien, il y a derrière des agences peut-être gouvernementales ou liées à certains gouvernements qui ont intérêt à faire fuiter des documents ou des puissances d'argent. Ou...
Bah, il y a les deux, en fait. Ouais. Il y a les deux. On recense beaucoup d'affaires dans notre livre, mais on les envisage justement d'un point de vue tactique, plus que d'un point de vue purement
éthique.
Voilà, purement éthique. Il y a des affaires qui sont très connues depuis la diffusion des mails internes du Parti démocrate aux États-Unis. Il y a énormément d'enquêtes judiciaires.
Par Julian Assange d'ailleurs, par Wikileaks.
Par Julian Assange justement. Et c'est en fait c'est à ce moment-là qu'il bascule complètement et que brusquement ça devient quelqu'un qui défend un camp contre l'autre en fait. Sa stratégie se met à se mordre la queue complètement, mais là-dessus, enfin jusqu'ici les enquêtes judiciaires et du Congrès ont mis en évidence quand même énormément de collusion entre les différents sites qui ont fait fuiter tous ces mails.
Et la diplomatie russe, en fait, on
est très clairement dans une opération très sophistiquée qui distille des informations dans une période électorale très tendue, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à partir de ce moment-là, WikiLeaks et Julian Assange se spécialisent uniquement dans les affaires électorales. Après cette histoire-là, Jeremy Corbyn, donc le leader travailliste britannique, perd les primaires de son parti, alors que c'était a priori le candidat qui satisfaisait le plus les intérêts russes, puisque c'était quelqu'un qui considérait qu'il fallait sortir de l'OTAN, que le Royaume-Uni sortait de l'OTAN. Aussitôt, Julian Assange lance une prime qui, dans mon souvenir, est gigantesque, enfin, c'est plusieurs dizaines de milliers de livres, en disant « Quiconque m'amène des preuves que les primaires pour désigner, enfin, qui ont écarté Jeremy Corbyn sont faussées, je lui donne cette prime. » Mmh. Ensuite, il n'est
plus du tout dans la même logique, il est vraiment dans une logique...
dans une logique d'agitation politique.
D'agitation politique.
Oui, ensuite,
clairement.
il diffuse les Macron X. Et ensuite, il s'invite dans la crise en Catalogne.
En fait, c'est un journaliste d'investigation qui a créé un nouveau type de journalisme.
Un nouveau média, en fait.
Absolument. Et effectivement, à un certain moment, où il a utilisé des lanceurs d'alerte, mais à un certain moment, on peut dire que l'instrument lui échappe. Mais en même temps, ça pose peut-être le problème. Il n'y a pas de contre-pouvoir au niveau mondial ou de grandes fondations ou de grands médiateurs ou quelqu'un qui, si on reprend les débuts, si vous voulez, les origines avec la première divulgation, il n'y a pas aujourd'hui effectivement d'endroit où quelqu'un qui a lancé une alerte de grande ampleur, qui serait effectivement dans le canal intérêt général, divulgation d'intérêt général, puisse se réfugier. Et si on prend par exemple le cas d'Edward Snowden, que nous soutenons effectivement, mm-hmm. que le mouvement de Transparency
soutient. Alors lui, ancien informaticien de la NSA, National Security Agency américaine.
Alors, Edward Snowden est quelqu'un qui d'abord essaie de faire une alerte interne, qui est soucieux du fait que la Constitution est violé effectivement par l'utilisation, enfin par la surveillance de masse avec des pratiques illicites de la NSA, c'est-à-dire des pratiques qui ne sont pas connues du Congrès. Donc on est dans la violation effectivement d'un amendement de la Constitution et il va chercher une stratégie pour y mettre fin. Et la stratégie, puisqu'il ne peut pas passer par le canal interne, il essaye, ça ne marche pas, il connaît l'affaire de Drake. Il a effectivement 20 années de gens qui ont essayé de faire des signalements par le dispositif interne de la NSA et qui ont eu des procès pendant 20 ans. Donc il choisit la stratégie de choisir de partir, de prendre des journalistes d'investigation qu'il connaît, donc qu'il a pu identifier, et il conçoit avec eux une stratégie pour trier des documents et les hiérarchiser et les livrer au public sans mettre en danger des tiers. C'est-à-dire qu'ils ne diffusent pas, enfin, dans ce que moi j'ai pu lire pour le moment, je n'ai pas toutes les sources, mais je dirais qu'il y a une stratégie relativement responsable de divulgation face à un type d'information extrêmement grave.
Est-ce que ce n'est pas un jeu trop grand, ça, pour des personnes individuelles ?
Et effectivement, il n'y a aucun lieu pour se réfugier après.
Alors, ce qu'on montre assez clairement dans le livre, c'est que si, c'est un jeu beaucoup trop grand pour des personnes individuelles, et les seuls qui gagnent, en fait, c'est pour ça qu'on insiste un peu lourdement sur le fait que cette architecture qui a été justement mise en place pour protéger des individus, aujourd'hui, en fait, est complètement piratée et ponctionnée par des administrations et des États qui sont beaucoup plus forts que des individus. Le cas Snowden est extrêmement emblématique de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que vous dites est totalement vrai, c'est-à-dire que c'est un lanceur d'alerte qui respecte toutes les procédures, etc.
Quelqu'un qui a voulu agir en responsabilité.
Oui. Hein, oui. Mais oui. Là où l'histoire quand même dérape assez massivement, c'est que quand vous dénoncez la violation de la Constitution américaine, c'est très difficilement audible quand vous le faites depuis la Chine et plus encore depuis la Russie.
Il n'était pas en Russie quand il l'a fait.
Il était à Hong Kong.
Il avait choisi. Oui.
Mais
WikiLeaks qui l'exfiltre et qui le fait passer
vers la Russie. Mais si vous voulez, un an après, on retrouve quand même Edward Snowden qui interviewe Vladimir Poutine et qui lui demande est-ce que des pratiques de ce genre ont lieu en Russie. Poutine dit non et fin de l'histoire.
Merci à vous.
Oui, mais puisqu'on parlait de la protection...
On n'a plus vraiment le temps, Nicole-Marie Meyer, et vous savez, ça va très très vite.
Et on n'a pas parlé de la protection, mais c'est quand même un projet de directive européenne pour les lanceurs d'alerte, avec justement la possibilité que tout pays européen pourrait offrir asile à tout lanceur d'alerte persécuté.
Merci à vous d'avoir participé à cette émission, Nicole-Marie Meyer. Merci à vous, Philippe Vasset. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Prochain débat jeudi, même heure, même endroit. Demain, c'est football sur RFI avec Real Madrid PSG. Bonjour chez vous.